Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 81 du plus loin de l'oubli dans la forêt du Struthof. Chers amis, bonjour. Colchique dans les prés, fleurisse, fleurisse, colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne emportée par le vent, la feuille d'automne en ronde monotone, tombe en tourbillonnant à, chers amis, la monotonie. Dans Nous l'avons bien connu sur Radio Judaïque à Strasbourg, et déjà depuis plus de 80 épisodes, ce qui me permet de dire que nous partageons une certaine familiarité. Nous courons auprès du temps perdu et des jeux du hasard. Nous avons inventé des invités qui étaient sans contrainte ni personne. On ne les connaissait pas et on ne les avait jamais rencontrés. Et nous étions parfois 5 ou 6 autour du micro pour évoquer ces inconnus qui en fait n'existaient pas. Et nous avons joué à inverser les rôles. L'invité posait les questions et moi je répondais en me mettant dans la peau du personnage. Et nous avons remonté le temps jusqu'à la période du Covid avec des récits qui nous paraissaient si lointains. Et c'était il y a 4 ans, autant dire un siècle, en lisant les anecdotes du livre « Le chat du 28 » paru aux éditions Bourblanc. Nous avons dialogué avec des invités prestigieux. Chacun était d'un spécialiste ou une spécialiste du temps perdu, le temps de la vie d'une molécule ou l'évocation de l'Homo sapiens et du Néandertal. Ou alors l'argent, parce que le temps, c'est de l'argent. Et puis les vieux journaux ou encore la pharmacienne qui nous permettait d'attendre encore un petit peu sur Terre, qui est quelquefois si jolie, avant de monter au paradis, et ceci grâce aux médicaments. Donc vous voyez, rien de monotone, n'est-ce pas? Alors, pour cette nouvelle saison, l'émission, vous l'avez bien connue, sera composée de petites histoires que j'ai écrites en faisant presque comme si elles étaient vraies. Je dirais que ce sont des histoires que l'on pourrait lire dans le journal, mais mes histoires ne sont pas d'actualité. Elles racontent des petites choses qui pourraient paraître insignifiantes, avec des gens bien ordinaires, même s'il arrive parfois que monsieur ou mademoiselle tout le monde rencontre une grande vedette. Je prends encore quelques instants avant de commencer mes lectures pour préciser mon état d'esprit lorsque j'écris. Là, je ne fais pas de journalisme, je l'ai déjà dit, ce n'est pas l'actualité. Je ne fais pas de la sociologie, non, surtout pas. Je ne vais pas vous donner des leçons, critiquer quelqu'un pour m'extasier parce qu'il fait pousser des radis plus gros que des navets. Non, ce ne sont pas des histoires complaisantes. Elles sont parfois tristes, souvent même parce qu'elles répondent au sujet de notre émission, le temps perdu, et que c'est souvent cette recherche, ce sont des histoires de solitude. Et quand on est seul, on écoute la radio. À plusieurs, on regarde la télévision et l'on bâille et l'on papote. Mais quand on est seul, on invente tout un univers autour du récit. Si vous n'êtes pas au volant, fermez les yeux. Et vous voyez de beaux décors, vous voyez des visages qui sont souriants, même s'ils sont tristes. Et vous vous demandez, mais Ambroise Perrin, où est-ce qu'il nous emmène dans cette émission? Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïque à Strasbourg. Je vais vous répondre, sans aucune fausse modestie, peut-être un peu de prétention. Je vous emmène sur le chemin de la littérature, oui, Les livres, la plus belle chose au monde. On peut oublier les amis, la famille, les ennemis, les bons dieux, les traditions flippantes. Les livres sont toujours sans contrainte. Et je m'amuse donc à me prendre au sérieux en prétendant flirter avec la littérature. Alors, si vous êtes en train d'éplucher des pommes de terre pour cuisiner un verre de lait, mon introduction ne vous aura pas paru trop longue. Chaque épisode a une durée d'une demi-heure. Je vous propose également de ponctuer chaque récit par de la musique. Mais moi, je déteste la musique bouche-trou à la radio. À chaque épisode, je passerai le même disque et je vous préciserai de quoi il s'agit, parce que parfois on entend des musiques, on ne sait même pas qui joue, quel est l'auteur et tout. Bon, voilà. Donc, je vous préciserai de quoi il s'agit. Et c'est une insolence de passer quelques instants de musique, juste, vous savez, une respiration. Allez, on se nettoie les oreilles en écoutant de la musique. Non, pas du tout. Moi, je choisis avec soin et j'espère avec pertinence ces plages. Alors aujourd'hui, nous écouterons Victor Ullmann, son opéra Der Kaiser von Atlantis, enregistré par l'orchestre Les Métamorphoses. C'est un disque intitulé Silence Voices, voix étouffée. Alors ce sont des Strasbourgeois, avec un financement de la Commission européenne. Et c'est un orchestre qui a été créé en 2018. Alors Victor Ullmann, les auditeurs le connaissent certainement. Il est né à Teschen en Autriche-Hongrie. C'est un compositeur prolixe. Il a été déporté par les nazis à Theresienstadt, où il a écrit son chef-d'œuvre, hein, L'Empereur de l'Atlantis. Il a été transféré à Auschwitz, où il a été gazé. Chacune des plages Der Kaiser von Atlantis sont très très courtes. Le premier récit s'intitule Du plus loin de l'oubli dans la forêt du Struthof. Comme si c'était une histoire qui avait été lue dans un journal, je vous raconte ces tranches de vie et vous me direz « Mais t'es sûr que c'est vrai ?» Les phrases créent des images, les faits qu'on imagine réels racontent des histoires. Où est la vérité quand on revient là où l'on a survécu à la pire des horreurs pour mourir ? C'est une maison bleue, un peu isolée. Il faut marcher 10 minutes au sud de Saint-Nabor et traverser le champ du Corisacker. Le vieux monsieur est veuf depuis toujours. Quand il a perdu sa femme, la fillette avait 6 ans, et il est resté tout seul avec elle, là où la neige des Vosges rend l'hiver plus froid et le feun qui balaye la colline l'été plus chaud. Les premières années, on les voyait passer sur un vieux vélo jusqu'à l'école. Elle mettait les pieds dans les sacoches. Plus tard, elle était seule, à pied. C'était loin. Elle était bonne élève. On disait qu'on l'avait entendu raconter qu'il travaillait parfois comme jardinier à l'abbaye de Trutenhausen et au prieuré de Saint-Gorgon. Mais comme il n'avait pas de voisins, personne ne leur parlait. Et quand elle épelait Corisacker en classe, elle insistait, avec 2 K, comme en norvégien. Ils étaient là parce que son grand-père avait été là. À l'époque où le facteur était toujours le même, il prenait le temps d'un petit verre pour un petit mot sur le pas de la petite porte, que des banalités, des petites choses, rien de personnel. Ensuite, on leur a demandé de chercher eux-mêmes le courrier à la poste, mais il n'y avait jamais rien. Si on ne voyait personne, on aurait pu se dire qu'ils voyageaient. Personne n'imaginait la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines. Ce fut, on ne sait plus trop, l'agent de l'électricité ou la camionnette de la gendarmerie. La porte était entrouverte, tout était vide, et sur la table seul le journal intime du vieux monsieur. Des livres étaient ouverts, retournés aux pages qu'il avait recopiées à la plume sergent-major. À la première page, on pouvait lire « Je pourrais avoir écrit le livre que je viens de lire ». Plus loin, ouvrez les guillemets, « parce que je suis alsacien », « parce que mes parents », « parce que la guerre », « par-dessus tout, je suis seul ». Ce n'est pas facile d'écrire le mot « solitude », mais j'ai un ami à Bergen, Thomas Espedal. Était-il parti chez cet ami dans les fjords ? Là-bas, les maisons aussi sont colorées. Et la jeune fille ? Je continue de lire son livre intime, son cahier. Elle se réveille. Le jour commence. Je suis heureux car je ne vais nulle part. Quand elle franchit la porte pour aller à l'école, j'attends déjà son retour. J'attends son retour et un jour elle téléphonera pour dire qu'elle dort chez une copine. Un jour elle téléphonera pour dire qu'elle dort chez son copain. Un jour elle téléphonera pour dire qu'elle va s'installer en ville, qu'elle va vivre dans une autre ville. Je m'y attends. À la page suivante du manuscrit, on lit. Thomas va vous raconter pour moi la suite, parce qu'il est écrivain. Un jour, le téléphone sonnera, et elle me dira qu'elle va vivre à l'étranger. Nous ne nous verrons peut-être plus très souvent. Nous nous verrons probablement assez rarement, de plus en plus rarement sans doute. Elle ne sait pas quand. À Noël peut-être, ou à Nouvel An. Mais peut-être pas, cet été, dira-t-elle. J'attends l'été. Il n'y avait aucune raison de rechercher le vieux monsieur dans la forêt de Natzwiller. Par hasard, à l'automne, un promeneur remarqua son corps dans la montée du camp du Struthof. Il semblait dormir, il souriait. Victor Ullmann, Der Kaiser von Atlantis, par le groupe Les Métamorphoses. Alors, le deuxième récit se situe également en Alsace, et disons-le, il est plus rigolo, puisqu'il s'agit du tournage à Obernai du film La décade prodigieuse, par Claude Chabrol. Et vous allez voir, tout ce que j'invente est vrai. Le titre de cette nouvelle, c'est Chabrol tire une balle dans la tête d'Orson Welles à Obernai. Alors nous sommes au printemps 1971. Claude Chabrol descend de voiture, le malin guide Michelin en main. Il a quitté Obernai pour Grendelbruch et à l'entrée de Börsch, il interpelle un cycliste qui a l'air un petit peu pompette, ce qui lui semble bon signe pour trouver le meilleur restaurant des environs. Par hasard, là, sur son vélo, c'est Paul Eckert, le critique cinéma des dernières nouvelles d'Alsace. Vous vous souvenez de lui ? Et qui fait une quasi-apoplexie en reconnaissant le grand maître du cinéma. Direction l'auberge. Chabrol ne connaît pas cette tradition gastronomique ancestrale que l'Alsace vient de réinventer, la tarte flambée. Alors, Chabrol, il l'imagine au Calvados, au Cognac, au Mar de Gewürz ou au Schnaps. Ben non, flambés, ce sont des lardons un peu cramés à la flamme du feu de bois. Le cinéaste explique au journaliste qu'il va tourner ici son plus grand film, le 24e de sa carrière, et il va fêter ses 41 ans, et qu'il cherche des paysages à l'ambiance provinciale pour une histoire d'amnésie et de jalousie. C'est la décade prodigieuse. Et Paul va se démener comme un chef pour organiser la visite du château Leonard Zau et vanter le romantisme de la Hotzell-Türkerweg vers Otrott. Chabrol débarque l'été venu avec Orson Welles, qui porte un faux nez et fait installer dans la villa louée d'un beau quartier d'Aubernay le courant 380 volts pour la table de montage de son film Don Quichotte. Tous les figurants aubernois de la décade prodigieuse tombent amoureux de Marlène Jobert. Anthony Perkins et Michel Piccoli rivalisent dans leur sublime jeu de traître. Karl Lagerfeld, il est là aussi, et c'est lui qui est complètement survolté. Et il invente des costumes baroques. Et Chabrol, fort aimable et habilement reconnaissant, il offre à Paul Eckert un rôle de chef, celui de la patrouille des scouts de Rosheim. Alors, l'ancien scout totémisé Michel Rocard, avec qui Chabrol était à l'école primaire, vient passer 2 jours sur le tournage et il prodigue des conseils d'hamster érudit en vadrouille. Mais Orson Welles énerve Chabrol. Le citizen aubernois passe son temps à dénicher les meilleures auberges de la région. On les voit dévorer des côtes de bœuf alsaciennes à la tyrolienne, recette qu'il souffle aux chefs interloqués, car l'Alsace et l'Autriche sont un petit peu la même chose, n'est-ce pas, vu d'Amérique. Et il boit beaucoup, Orson Welles, la soif du mal. Comme toujours chez Chabrol, il y a dans le film une séquence à table où l'on entend Welles, qui joue un richissime patriarche enivré, déclarer son amour pour la région d'Aubernay. Avec ma fortune, j'ai pu choisir l'endroit où je voulais vivre, c'est ici. On apprend par la dame de Shanghai que c'est lui, héros discret de la lutte contre l'occupant, qui a construit après-guerre l'hôpital, la bibliothèque et l'école de la petite ville, donc à Aubernay. Mais on s'ennuie sur le tournage, et comme plus tard les critiques en voyant le film. Alors Chabrol en a marre de la tarte flambée. Il a l'esprit ailleurs, parce qu'il courtise la belle Aurore. Et il décide avec son scénariste, Paul Geghoff, d'en finir, en tournant vite une fin sinistre. L'histoire prodigieuse, dernière bobine, se termine avec Orson Welles, le héros anti-nazi, se tirant une balle dans la tête. Alsace, the end!
Thank you. Der Kaiser von Atlantis de Victor Ullmann par le groupe strasbourgeois Les Métamorphoses. J'ai encore le temps de vous raconter l'histoire de Johnny Hallyday à Strasbourg. Alors, c'est aussi une histoire de solitude, mais les grandes vedettes, ou plutôt les gens très connus, ont parfois du mal à être des gens simples, avec des amis, la famille, ou un copain d'un soir. Vous savez, celui qu'on rencontre dans le train, et puis en sortant de la gare, on dit « Allez, on échange nos cartes de visite ». Ou alors, au bistrot, le type de la table à côté. Vous savez, quand on mange en vitesse, par exemple, une paire de knacks, parce que l'on a juste un tout petit peu faim, mais qu'on n'a pas envie de faire un vrai repas, les regards se croisent, et puis on sympathise. Donc, Johnny, il vient en Alsace. Nous sommes en 1998, mais on se souvient de son premier tour de chant en 1961 au Wacken. Jimi Hendrix était venu dans la même semaine, je crois, et puis il y avait eu une histoire de chaise cassée à l'Olympia, et alors on avait interdit à Johnny de jouer parce qu'on avait peur qu'il y ait le même bazar à Strasbourg. Et mon histoire s'intitule donc en 1998 « Johnny allume le champ du feu ». Et alors, quand on va se promener sur les hauteurs du Donon, et vous allez voir, soyez gentils, hein, imaginez que cette histoire est vraie. Johnny allume le champ du feu. On raconte que 100% alsacien, le spectacle de Johnny Hallyday allumait le feu, car c'est au champ du feu, oui, que le chanteur a préparé ce qui restera son show le plus populaire et le plus rentable. Cela débute en juin 1998. Alors Johnny prépare sa rentrée musicale, peut-être au Stade de France à Paris, ou même mieux, au Champ de Mars, sous la Tour Eiffel. Les producteurs imaginent les artifices des deux grandes stars, celle de fer et celle de feu. Johnny est fatigué par la gloire. Il s'amuse à rechercher la sincérité, humble et belle, comme un souvenir tendre et cruel. Adieu Paris ! Et il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour pour allumer le feu et voir grandir la flamme dans ses yeux. Pourquoi Johnny a-t-il écrit ces belles paroles avec son copain parolier ? Mais parce que Johnny pense à la jeune fille qui habite au Belmont, une choriste dont il pourrait être fou amoureux. Ils se sont déjà promenés là-bas, chez elle, dans les chaumes et les tourbières, sur les monts du Champ du Feu. C'était en 1961 et son tour de chant à Strasbourg avait été interdit pour des histoires d'émeutes et de fauteuils cassés, je vous l'ai dit, et il avait pris alors le temps de faire une excursion sur le Champ du Feu. Enfin, Johnny lui déclara, le genou dans la tourbière, « Que je t'aime !» Et il inspira à sa belle les paroles du Champ du Feu. Il va les rédiger ainsi, transi, sur le petit carnet qu'il garde toujours en poche. Alors, il rentre à Paris et il fallait un titre fort et rythmé pour l'ouverture du spectacle. Quelques glissements sémantiques et romantiques transformèrent le chant du feu en « Allumer le feu ». Et c'est au chant du feu alsacien que se déroulèrent les répétitions. Johnny arrivant à bord d'un hélicoptère piloté par Michel Drucker et glissant sur scène le long d'un filin d'argent moulé dans une combinaison en omex et en kevlar. Dans un déluge de lumière, de furie pyrotechnique et de fumée rouge d'enfer, le chanteur pose le pied au sol, s'enflamme mais ne brûle pas. Il s'enflamme mais ne brûle pas. Revenir à l'état sauvage, sortir le loup de sa cage, viril et le barbecue, au grill le loup-garou. Bon, j'avoue que les rimes ne sont pas très élégantes, mais enfin, c'est la chanson de Johnny. Le chef des choristes c'est l'Alsacienne Héphaïstos Rathmashausen, de blanc vécu et de blanc vêtu. Elle se jette éperdue dans le mur de feu. Alors, vous savez qu'au cinéma et dans les spectacles, le feu, il brûle pas, hein. C'est du bidon. Mais enfin, quand même, hein, c'est très impressionnant. Ceux qui ont vu le spectacle Allumer le feu le connaissent, hein. Alors, de noble souche, hein, cette Alsacienne, hein, qui s'appelle Héphaïstos Rathmashausen, elle avait recruté les 113 danseurs et figurants parmi ses amis qui étaient des chevaliers du banc de la Roche au Hovald et à Saint-Nabor. Le show brûlant fut un triomphe. Allumer le feu, aujourd'hui encore, est un tube parmi les 20 qui ont généré le plus de droits en France, selon la SACEM. Donc Johnny s'est fait beaucoup de sous sur le champ du feu. Et à la fin de la saison, Johnny, il est généreux, il offrit à chacun des figurants du champ du feu une somme coquette, de quoi s'acheter une petite voiture, se souvient-on, là, quand j'ai demandé à des gens, là, donc 25 ans plus tard, ils m'ont dit « Ouais, Johnny nous a donné de quoi nous acheter une bagnole ». Sympa quand même, hein, Johnny. Je vous rappelle que vous devez croire que cette histoire est vraie. Alors, si l'on se promène au champ du feu, à 1098 mètres d'altitude, au pied de la vieille tour du club vosgien, on y voit une plaque souvenir « Johnny brûle pour toi », qui rappelle l'aventure. Et depuis, dans les EHPAD de Molsheim et d'Obernai, quand on part au champ du feu en excursion, eh bien, dans l'autobus, on chante « Allons donc les vieux, allumez le champ du feu, allons donc les vieux !» C'était l'épisode numéro 81 de « Vous l'avez bien connu », la nouvelle saison automne 2024. On se raconte des histoires où l'on se moque du temps qui passe, où l'on blasphème la vérité, où l'on mange de la tarte au fromage et des veddeles bien juteux. Une émission qui se joue des hasards de la vie et qui est quelquefois si jolie. La semaine prochaine, on parlera du fantôme de Zellwiller, du bébé de Heiligenstein et des amoureux de Molsheim. Vous l'avez bien connu, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli et mon nom est Ambroise Perrin.